Chapitre 38. Mélanie. Quel plaisir de revenir chez soi. J'avais fini par me lasser de l'hôpital, même avec une chambre privée. L'aile où elle se trouvait isolée à ma demande et toute l'équipe médicale à mon service. En fin de compte, c'est chez soi que l'on est le mieux pour guérir et reprendre des forces. Plusieurs années auparavant, j'avais lu des récits consacrés aux prétendues expériences extracorporelles vécues par des mourants, par des individus ressuscités après avoir été déclarés cliniquement morts, et je les avais considérés comme des affabulations, le genre d'article à sensation si commun de nos jours. Mais c'est exactement l'impression que j'ai eue lorsque j'ai repris conscience à l'hôpital. Pendant un long moment, il m'a semblé que je flottais près du plafond de la chambre, ne voyant rien mais percevant toute chose. J'avais conscience du corps flétri et recroquevillé sur le lit, des tubes, sons des cathéters qui y étaient attachés. J'avais conscience de l'activité des médecins, des infirmières et des aides-soignantes qui s'efforçaient de maintenir ce corps en vie. Lorsque j'ai fini par réintégrer l'univers de la vue et de l'ouïe, je me suis aperçue que c'était par l'entremise des yeux et des oreilles de tous ces gens. Et ils étaient si nombreux. Il ne m'avait jamais été possible, ni à Willy ni à Nina, je le savais, d'utiliser totalement un sujet tout en recevant des impressions sensorielles claires émanant d'une autre personne. Il était certes possible, avec une bonne expérience, d'utiliser un inconnu tout en contrôlant un pion conditionné ou encore, au prix de certains efforts, d'utiliser deux inconnus en passant rapidement de l'un à l'autre pour ne pas perdre le contrôle de leur esprit, mais jouir d'un tel contrôle tout en bénéficiant d'impressions visuelles, auditives et tactiles comme celles que je percevais. Voilà qui était tout simplement inouï. En outre, les sujets que nous utilisons d'ordinaire ont toujours conscience de notre présence, ce qui entraîne soit la destruction de nos instruments humains, soit l'effacement de leurs souvenirs lorsqu'ils ont fini de nous servir, un processus tout simple qui laisse néanmoins d'inexplicables lacunes dans la mémoire du sujet. Mais je percevais ce qui m'entourait par l'entremise d'une douzaine de personnes dont aucune n'avait conscience de ma présence. Mais pouvais-je les utiliser? Avec un luxe de précaution, je me livrais à quelques expériences délicates, ordonnant à une infirmière de soulever un verre, à une aide-soignante de fermer une porte, à un médecin de prononcer quelques mots qu'il n'aurait jamais prononcés de lui-même. Je pris soin de ne pas compromettre le déroulement des soins auxquels il procédait. Aucun de mes sujets ne sentit ma présence dans son esprit. Plusieurs jours s'écoulèrent. Je découvris que, pendant que mon corps gisait dans un coma apparent, maintenu en vie par des machines et une vigilance constante, apparemment confiné dans le plus petit espace imaginable, j'explorais les lieux avec une facilité dont je n'avais jamais approché ni rêvé. Je quittais ma chambre derrière les yeux d'une jeune infirmière, sentant sa vitalité et sa force animale, goûtant le chewing-gum à la menthe qu'elle mâchait, et une fois au bout du couloir, je lançais une nouvelle vrille de conscience, sans jamais perdre le contact avec ma jeune infirmière, en direction du directeur du service de chirurgie, prenais l'ascenseur avec lui, faisait démarrer sa Lincoln Continental et parcourait les 10 kilomètres qui le séparaient de sa maison de banlieue où l'attendait sa femme, tout en restant en contact intime avec mon infirmière, avec le vendeur de confiserie du hall, avec l'interne qui examinait des radiographies à l'étage en dessous du mien et avec le médecin qui examinait mon corps comateux dans ma chambre. La distance n'était désormais plus un obstacle pour mon talent. Pendant des dizaines d'années, Nina et moi nous étions émerveillés des capacités de Willy à utiliser ses sujets à une distance hors de notre portée. Mais j'étais à présent bien plus puissante que lui. Et mes pouvoirs croissaient chaque jour. Le deuxième jour, alors que je testais mes nouvelles perceptions et mes nouveaux talents, la famille vint à l'hôpital. Je ne reconnus pas le grand rouquin ni sa mince femme blonde. Mais je jetai un coup d'œil à la réception par l'intermédiaire de la réceptionniste, aperçus les 3 enfants et les reconnus aussitôt. Les enfants du parc. Le rouquin parut fort inquiet en me découvrant. Je me trouvai au service de réanimation, Une toile d'araignée de boxe disposée en parts de gâteau, dont le centre était le poste des infirmières. Prisonnière de cette toile, j'étais engluée dans une autre toile encore plus serrée, faite de sondes et d'intraveineuses. Le médecin écarta le rouquin de la vitre, donnant sur ce que mon infirmière appelait la réa. « Êtes-vous un membre de la famille ?» demanda le médecin. C'était un homme compétent et précis dont le crâne était surmonté d'une crinière de cheveux gris. Il s'appelait Hartmann, et je sentais le plaisir, l'anxiété et le respect que sa présence inspirait aux infirmières. « Non ?» dit le rouquin. « Je m'appelle Howard Warden. Nous l'avons trouvé, enfin, mes gamins l'ont trouvé hier matin, elle errait dans notre jardin. Elle s'est effondrée quand... » « Oui, oui, » abrégea le docteur Hartmann. « J'ai lu le témoignage que vous avez donné à l'infirmière des urgences. Vous n'avez aucune idée de l'identité de cette dame ?»« Non, elle n'était vêtue que d'un peignoir et d'une chemise de nuit. Mes gamins disent qu'ils l'ont vue sortir du bois quand... » Et aucune idée de l'endroit d'où elle vient. Non, je n'ai pas prévenu la police. Je pense que j'aurais dû le faire. Nancy et moi, on a attendu ici pendant plusieurs heures et quand on a compris que la vieille dame n'allait pas... Enfin, que son état était stationnaire, on est rentré chez nous. C'était mon jour de congé. Je comptais appeler la police ce matin, mais j'ai pensé qu'il valait mieux prendre de ses nouvelles avant. « Nous avons déjà informé la police, » mentit le docteur Hartmann. C'était la première fois que je l'utilisais. C'était aussi facile que d'enfiler un vieux manteau familier. Ils sont venus ici et ont rédigé un rapport. Apparemment, ils n'avaient aucune idée de l'endroit d'où venait Mrs. Doe. Personne n'a signalé la disparition d'une personne âgée. « Mrs. Doe ?» répéta Howard Warden. « Oh oui, Jane Doe, d'accord. Eh bien, c'est un mystère pour nous, docteur. Nous habitons à 3 kilomètres à l'intérieur du parc et, d'après les gamins, elle n'est même pas arrivée par le chemin d'accès. » Il jeta un regard en direction de l'area. « Comment va-t-elle, docteur ? Elle a l'air, vraiment mal en point. » « Cette dame a subi une attaque très grave, » dit le docteur Hartmann. Peut-être même une série d'attaques. Comme Warden le regardait sans comprendre, il poursuivit. Elle a subi ce que nous appelons un accident cérébrovasculaire, jadis connu sous le nom d'hémorragie cérébrale. Son cerveau a été temporairement privé d'oxygène. D'après nos premières analyses, cet incident semble avoir eu lieu dans l'hémisphère droit du cerveau de la patiente, ce qui a eu pour conséquence une interruption des fonctions cérébrales et nerveuses. La majorité des effets sont visibles sur la moitié gauche de son visage. Paupières affaissées, paralysie des membres. Mais dans un sens, ces symptômes sont peut-être rassurants, car l'aphasie, les troubles de la parole, sont généralement une conséquence des traumatismes subis par l'hémisphère gauche. Nous avons effectué un électroencéphalogramme et une tomographie, et honnêtement, les résultats obtenus sont quelque peu contradictoires. Alors que la tomographie a confirmé l'infarctus et sans doute l'occlusion de l'artère cérébrale centrale, l'électroencéphalogramme ne correspond pas à celui que nous nous serions attendus à découvrir après un incident d'une telle nature. Comme je commençais à me lasser de ce jargon médical, je concentrais toute mon attention sur la réceptionniste. Je lui ordonnais de quitter son poste et d'aller voir les 3 enfants. « Bonjour, » dis-je par sa bouche. « Je parie que je sais qui vous êtes venu voir. » « On ne peut voir personne, » dit une petite fille de 6 ans, celle qui avait chanté « Hey Jude » au lever du soleil. « On est trop petit. » « Mais je parie que je sais qui vous aimeriez voir, » dit la réceptionniste en souriant. « Je veux voir la gentille dame, » dit le petit garçon. Il avait les larmes aux yeux. « Pas moi, » dit la plus âgée des 2 fillettes. « Moi non plus. » renchérit sa sœur. Pourquoi donc ? Demandai-je. J'étais froissée. Parce qu'elle est bizarre, dit l'aînée. Je croyais que je l'aimais bien, mais quand j'ai touché sa main hier, elle était toute drôle. Qu'entends-tu par drôle ? demandai-je. La réceptionniste portait d'épais verres correcteurs qui déformaient tout ce que je voyais. Jamais je n'ai eu besoin de lunettes, excepté pour lire. « Drôle, » dit la fillette. « Bizarre, comme la peau d'un serpent ou quelque chose comme ça. Je l'ai lâchée tout de suite avant qu'elle se trouve mal, mais on aurait dit que je savais qu'elle était méchante. « Mouais, » dit sa sœur. « Tais-toi, Ali, » ordonna l'aînée qui regrettait de toute évidence de m'avoir adressé la parole. « Moi, j'aimais bien la gentille dame, » dit le garçonnet de 5 ans. Apparemment, il s'était mis à pleurer avant même d'arriver à l'hôpital. Je fis signe aux deux fillettes de me suivre vers le guichet de la réceptionniste. « Venez, j'ai quelque chose pour vous. » Je fouillai dans un tiroir et en sortis 2 bonbons à la menthe. Lorsque l'aîné tendit une main vers eux, je la saisis par le poignet. « D'abord, je vais vous dire la bonne aventure, » murmurai-je par la bouche de la réceptionniste. « Lâchez-moi !» chuchota la fillette. « Tais-toi !» ordonnai-je sèchement. « Tu t'appelles Tara Warden. Ta sœur s'appelle Allison. Vous vivez toutes les deux dans une grande maison sur la colline, dans le parc, et vous l'appelez le château. Et un de ces jours, en pleine nuit, un énorme croque-mitaine vert aux dents jaunes va entrer dans votre chambre quand il fera noir, vous découper en morceaux, toutes les deux, et manger tous les morceaux. » Les deux fillettes reculèrent en titubant, le visage blanc comme un linge et les yeux grands comme des soucoupes. « Et si vous répétez ce que je viens de vous dire, à votre père, à votre mère, à n'importe qui, » siffla la réceptionniste, « le croque-mitaine viendra vous manger cette nuit. » Les deux fillettes retournèrent s'asseoir en tremblant, puis regardèrent la femme comme s'il s'était agi d'un serpent venimeux. Une minute plus tard, un couple de personnes âgées vint demander son chemin à la réceptionniste, et je laissai celle-ci redevenir la femme douce, simple et empressée qu'elle avait toujours été. En haut, le docteur Hartmann avait fini d'expliquer mon état de santé à Howard Warden. Au bout du couloir, l'infirmière en chef Old Smith vérifiait les ordonnances des patients, accordant un soin tout particulier à celle de Mrs. Doe. Dans ma chambre, la jeune infirmière nommée Sewell me baignait doucement avec des compresses froides, massant ma peau avec ce qui ressemblait à de la révérence. Je n'éprouvais guère qu'une vague sensation de plaisir, mais je me sentais mieux rien qu'en pensant qu'on m'accordait toute l'attention souhaitable. Qu'il était bon d'être de retour au sein de sa famille. Le 3e jour, durant la nuit en fait, alors que je me reposais, je ne dormais jamais vraiment, me contentant de laisser flotter ma conscience, allant de réceptacle en réceptacle, en me laissant guider par le hasard, j'eus soudain conscience d'une excitation physique que je n'avais pas ressentie depuis bien longtemps. La présence d'un homme, ses bras autour de mon corps, son bas-ventre se pressant contre moi. Je sentis mon cœur battre plus fort lorsque la plénitude de mes jeunes seins aux pointes durcies se plaqua contre son torse. Sa langue fouillait ma bouche. Je sentis ses mains tâtonner à la recherche des boutons de ma blouse d'infirmière, tandis que mes propres mains débouclaient sa ceinture, ouvraient sa braguette et s'emparaient de son membre dressé. C'était répugnant. C'était obscène. C'était l'infirmière Connie Sewell dans un placard en compagnie d'un interne. Comme je ne pouvais pas dormir, je laissais ma conscience retourner vers l'infirmière Sewell. Je me consolais en pensant que je n'avais pas déclenché cet acte, que je ne faisais qu'y participer. La nuit passa très vite. Je ne sais pas exactement quand m'est venue l'idée de retourner chez moi. Il était nécessaire que je reste à l'hôpital pendant ces quelques semaines, pendant un peu plus d'un mois. Mais à partir de mi-février, mes pensées se tournèrent de plus en plus souvent vers Charleston et ma maison. Il ne m'était guère difficile de prolonger mon séjour à l'hôpital sans attirer l'attention sur moi. Dès la 3e semaine, le docteur Hartmann m'avait installé dans une grande chambre située au 6e étage, et la majorité du personnel me considérait comme une riche patiente dont l'état nécessitait des soins particulièrement attentifs. C'était exact. un des administrateurs de l'établissement, le docteur Markham, ne cessait de poser des questions à mon sujet. Il montait au sixième étage tous les jours, tournant autour de moi comme un chien ayant reniflé une piste. J'ordonnais au docteur Hartmann de le rassurer. J'ordonnais à l'infirmière Hall-Smith de lui donner des explications. Finalement, je pénétrais dans l'esprit de cet homme mesquin et le rassurais à ma façon. Mais il se montra entêté. 4 jours plus tard, il était de retour, interrogeant les infirmières sur les soins exceptionnels qui m'étaient dispensés, exigeant de savoir qui payait la note lorsqu'on me faisait passer des examens, lorsqu'on me faisait subir une tomographie, lorsqu'on faisait venir un spécialiste pour recueillir son avis sur mon cas. Markham fit remarquer qu'il n'existait aucune trace administrative de mon admission, aucun formulaire numéro 26479B15-C, aucun plan de financement de mon traitement, aucune information sur son paiement éventuel. L'infirmière Hall-Smith et le docteur Hartmann acceptèrent de se rendre à une réunion le lendemain matin, à laquelle assisterait notre inquisiteur, le président du conseil d'administration de l'hôpital, le directeur du service comptable et 3 autres grands patrons. Ce soir-là, je rejoignis Markham alors qu'il rentrait chez lui au volant de sa voiture. La voie express Schuylkill était encombrée, et cela me rappela de tristes souvenirs de la Saint-Sylvestre. Quelques centaines de mètres avant la jonction avec la voie express Roosevelt, j'ordonnais à notre ami de se garer sur l'étroite bande d'arrêt d'urgence, d'allumer ses feux de détresse et d'aller se placer devant le capot de sa Chrysler. Je l'aidai à rester planté là quelques minutes, grattant son crâne dégarni et se demandant ce qui clochait dans son moteur. Puis, le moment attendu arriva enfin. Les 5 voies emplies de véhicules roulant à toute allure. Un camion sur la file de droite. Notre ami l'administrateur fit 3 pas sur la chaussée. J'eus le temps d'enregistrer le rugissement du klaxon, de voir l'expression affolée du routier s'approchant à toute vitesse et de sentir les pensées incrédules et désordonnées de Markham, puis le choc me propulsa vers mes autres réceptacles. Je partis à la recherche de l'infirmière Sewell et partageai l'impatience qui l'habitait. Le jeune interne allait bientôt prendre son service. J'ai perdu presque toute notion du temps durant cette période. J'allais du passé au présent avec autant de facilité que je passais d'un réceptacle à l'autre. J'aimais surtout revivre les étés que j'avais passés en Europe avec Nina et Willem, notre nouvelle amie. Je me souviens des 12 soirées viennoises où nous nous promenions le long de la Ringstrasse, cette artère où les plus beaux fleurons de la haute société défilaient dans leurs plus beaux atours. Willy adorait aller au Colosseum de Neusdorfer Strasse. Mais on n'y passait le plus souvent que d'ennuyeux films de propagande allemand, et Nina et moi réussissions le plus souvent à convaincre notre jeune guide de nous accompagner au Kruger Kino, où l'on voyait souvent des films de gangsters américains. Je me souviens d'y avoir beaucoup ri, jusqu'au soir où j'ai pleuré en regardant Jimmy Cagney éructer ses menaces dans cette horrible langue germanique. C'était le premier film parlant doublé que je voyais. Ensuite, nous allions souvent boire un verre au Reisbar de Körntorstrasse, saluant d'autres groupes de jeunes fêtards, nous détendant dans des fauteuils en vrai cuir, si chic et si confortable, et contemplant les jeux de lumière sur l'acajou, le verre, le chrome, le marbre et les dorures des tables. Parfois, certaines des prostituées les plus stylées de Krugerstrasse venaient se rafraîchir avec leurs clients, ajoutant une note piquante et scandaleuse à notre soirée. Nous allions souvent finir la nuit à Simple, le meilleur cabaret de Vienne. Cet établissement s'appelait en fait Simplicimus, et je me souviens qu'il était dirigé par 2 Juifs, Karl Fracas et Fritz Grumbaum. Même par la suite, lorsque les chemises brunes et les SS semaient le trouble dans les rues de la vieille cité, ces 2 comédiens réjouissaient leurs clients hilars en leur proposant des portraits satiriques de nazis stéréotypés, se rendant ridicules lors de soirées distinguées ou discutant des subtilités de la doctrine fasciste, tout en saluant en chien, chat et passant de retentissant « Sieg Heil ». Je me rappelle Willy éclatant de rire jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Un soir, il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer. Et Nina et moi avons dû lui taper dans le dos et lui offrir nos verres de champagne pour le calmer. Plusieurs années plus tard, lors d'une de nos réunions, Willy nous a appris que Fracas ou Grunbaum, je ne me rappelle plus lequel, avait péri dans un des camps que Willy avait brièvement administré avant de partir sur le front russe. Nina était très belle en ce temps-là. Elle avait fait couper ses cheveux blonds qui étaient coiffés à la dernière mode, et son héritage lui permettait de s'offrir les plus belles robes de Paris. Je me rappelle en particulier une superbe robe de soirée verte très décolletée, dont le tissu moulait ses petits seins et dont la couleur faisait ressortir les nuances délicates de sa peau de pêche tout en flattant ses yeux bleus. Je ne sais plus qui a eu l'idée de commencer le jeu durant cet été-là, mais je me souviens de l'excitation que nous avons ressentie en nous lançant dans la chasse. Nous utilisions divers pions à tour de rôle. Certaines de nos connaissances, des amis des cibles que nous avions choisies, une erreur que nous ne devions plus commettre par la suite. L'année suivante, nous avons joué avec encore plus de plaisir, enfermés dans une chambre de notre hôtel de Joseph Stadlerstrasse, et utilisant tous les trois le même instrument. Un paysan stupide et balourd, qui ne fut jamais capturé mais dont Willy se débarrassa par la suite. Et lorsque nous nous sommes retrouvés tous les trois dans son esprit, partageant les mêmes expériences et les mêmes frissons, nous avons ressenti une intimité et un plaisir qu'un quelconque ménage à trois n'aurait jamais pu nous procurer. Je me rappelle l'été que nous avons passé à Bad Ischl. Nina fut fort amusée par le nom de la petite gare où nous avons quitté le train venant de Vienne pour prendre notre correspondance. Un village du nom d'Atnangpuchem. En répétant ce nom sans interruption, on finissait par produire un bruit de locomotive. Atnangpuchem, Atnangpuchem. Nous rions à en perdre le souffle, puis nous rions encore. Je me souviens des regards outragés que nous lançait une vieille douairière, assise de l'autre côté de l'allée centrale du wagon. C'est à Bad Ischl que je me suis retrouvée toute seule, dans le café Zoner par un bel après-midi. J'étais allée prendre un cours de chant, comme à mon habitude, mais mon professeur était malade, et quand je suis retournée au café où Willy et Nina avaient coutume de m'attendre, notre table était inoccupée. Je suis retournée à l'hôtel de l'Esplanade, où Nina et moi étions descendus. Je me rappelle m'être demandé pour quelle excursion impromptue étaient partis mes amis et pourquoi ils ne m'avaient pas attendue. J'avais ouvert la porte de la suite et me trouvais au milieu du salon lorsque j'entendis des bruits provenant de la chambre de Nina. Je crus d'abord qu'il s'agissait de cris de détresse, et je me précipitai vers sa chambre, pensant naïvement pouvoir offrir mon aide à la femme de chambre ou à quiconque se trouvait en danger. C'étaient Nina et Willy, bien sûr. Ils ne couraient aucun danger. Je me rappelle la pâleur des cuisses de Nina et des flancs de Willy, faiblement éclairés par la lumière filtrant à travers les rideaux marrons. Je suis restée une bonne minute à les regarder avant de faire demi-tour et de sortir de la suite en silence. Durant cette longue minute, le visage de Willy me demeura invisible, enfoui au creux de l'épaule de Nina. Mais celle-ci tourna presque tout de suite vers moi, ses yeux d'un bleu limpide. Je suis sûre qu'elle m'avait vue. Mais elle ne cessa pas de bouger. Pas plus qu'elle ne cessa d'émettre une série de grognements animaux de sa bouche grande ouverte, si rose et si parfaite. Vers la mi-mars, je décidai que l'heure était venue pour moi de quitter l'hôpital, de quitter Philadelphie et de rentrer chez moi. J'ordonnai à Howard Warden de s'occuper de mon déménagement. Mais même en sacrifiant ses économies, Howard ne pouvait disposer que d'environ 2 500 $. Cet homme n'aurait jamais réussi dans la vie. Nancy, d'un autre côté, clôtura le compte épargne qu'elle avait ouvert grâce à l'héritage de sa mère et contribua de 48 000 $ à notre petite entreprise. Cette somme avait été mise de côté pour financer les études supérieures des enfants, mais cela n'était désormais plus nécessaire. J'ordonnai au docteur Hartmann de se rendre au château. Howard et Nancy attendirent dans leur chambre pendant que le docteur se rendait dans celle des filles avec ses deux seringues. Ce fut le docteur Hartmann qui régla les derniers détails. Je me rappelais avoir aperçu une charmante petite clairière dans la forêt de Fairmount Park, à un peu plus d'un kilomètre du pont de chemin de fer. Le lendemain matin, Howard et Nancy prirent leur petit déjeuner en compagnie du seul Justin, et grâce à la force de mon conditionnement, ne remarquèrent rien d'inhabituel. Hormis quelques vagues impressions similaires à celles que l'on éprouve au cours d'un rêve où on s'aperçoit soudain qu'on a oublié de s'habiller, où on se retrouve tout nu à l'école ou dans un quelconque lieu public. Cela leur passa. Howard et Nancy s'adaptèrent bien vite à leur nouveau statut de parents d'un fils unique, et je me félicitais de ne pas avoir utilisé Howard pour régler ce problème. Le conditionnement d'un sujet est toujours plus facile et plus réussi s'il ne subsiste en lui aucun vestige de traumatisme ou de ressentiment. Le mariage du docteur Hartman et de l'infirmière Old Smith fut célébré dans l'intimité par un juge de paix de Philadelphie, avec pour seul témoin l'infirmière Sewell, Howard, Nancy et Justin. Je trouvais qu'ils faisaient un très beau couple, même si certains considèrent l'infirmière Old Smith comme une femme revêche et peu souriante. Une fois le déménagement organisé, le docteur Hartman apporta sa contribution à nos fonds. Il lui fallut un certain temps pour vendre ses actions et ses biens immobiliers, ainsi que pour se débarrasser de cette grotesque Porsche toute neuve qu'il aimait tant, mais une fois mise de côté la somme nécessaire pour régler les pensions alimentaires de ses deux ex-épouses, il put nous apporter un capital de 185 600 dollars. Vu que le docteur Hartman allait bientôt prendre une retraite anticipée, cette somme serait plus que suffisante pour nos premiers besoins. Mais elle n'était pas suffisante pour l'acquisition de ma vieille maison ou de celle des Hodge. Je ne souhaitais plus voir des inconnus demeurer en face de chez moi. Les Warden avaient stupidement omis de faire assurer leur enfant sur la vie. Howard avait une police d'assurance de 10 000 dollars à son nom, mais cette somme était ridicule tant le prix du mètre carré était élevé à Charleston. En fin de compte, ce fut la mère du docteur Hartman, une femme âgée de 82 ans en parfaite santé et demeurant à Palm Springs, qui nous légua la somme nécessaire. Le mercredi des cendres, alors que le docteur était en consultation, il apprit que sa mère venait de succomber à une soudaine embolie. Il s'envola pour la Californie ce même après-midi. L'enterrement se déroula le samedi 7 mars, et comme il avait plusieurs détails à régler avec les avoués chargés de la succession, il ne revint pas à Philadelphie avant le mercredi 11. Rien ne s'opposait à ce que Howard prenne le même avion que lui. Le montant de la succession s'élevait à un peu plus de 400 000 dollars. Nous sommes partis pour le sud une semaine plus tard, le jour de la Saint-Patrick. Il y avait encore quelques détails à régler avant de quitter définitivement le nord. J'étais à l'aise au sein de ma petite famille, Howard, Nancy et le petit Justin, et auprès de nos futurs voisins, le docteur Hartman, l'infirmière Old Smith et Miss Sewell. Mais il me fallait encore me soucier de ma sécurité. Le docteur Hartman était plutôt petit et malingre, et si Howard était grand et plutôt robuste, il était aussi lent à se mouvoir qu'il l'était à réfléchir, et la graisse l'emportait chez lui sur le muscle. Nous avions besoin d'un ou deux membres supplémentaires pour assurer ma sécurité. Howard amena Kelly à l'hôpital le week-end qui précéda notre départ. C'était un véritable géant, 1,90 m et 140 kg de muscles. Kelly était un homme frustre, presque incapable de s'exprimer, mais aussi agile qu'une panthère. Howard m'expliqua que Kelly avait travaillé comme assistant à l'entretien du parc avant d'être condamné et emprisonné 7 ans plus tôt pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Il était sorti de prison l'année précédente et on lui avait confié les tâches les plus ingrates du service d'entretien. Déraciner les souches, démolir les vieux bâtiments, repaver les routes et les sentiers aménagés, pelleter la neige. Kelly travaillait sans se plaindre et était en bonne voie de réinsertion. Très large au niveau de la nuque et des mâchoires, la tête de Kelly se rétrécissait pour s'achever en pointe, et son crâne était recouvert d'une brosse si courte et si rêche qu'elle semblait être l'œuvre d'un coiffeur aveugle et sadique. Howard avait dit à Kelley qu'une occasion professionnelle sans précédent se présentait à lui. Mais il avait utilisé une formule beaucoup plus simple. « C'est moi qui avais eu l'idée de le faire venir à l'hôpital. »« Voilà ta nouvelle patronne !» dit Howard en indiquant le lit où gisait ma pauvre carcasse. « Tu devras la servir, la protéger. Donner ta vie pour elle s'il le faut. » Kelley émit un grognement rappelant celui d'un chat s'éclaircissant la gorge. « Elle est encore vivante, la vieille. On dirait qu'elle est crevée. » Ce fut à ce moment-là que j'entrai en lui. Il n'y avait pas grand-chose dans ce crâne minuscule, hormis quelques pulsions primitives. La faim, la soif, la peur, la vanité, la haine, et un besoin de plaire motivé par un vague désir d'appartenir à une cellule, d'être aimé. Ce fut cette dernière pulsion que je développais, que j'amplifiais. Kelley resta assis dans ma chambre pendant 18 heures d'affilée. Lorsqu'il en sortit pour aller assister Howard dans les préparatifs de départ, il ne restait plus rien du Kelley initial, excepté sa taille, sa force, sa rapidité et son désir de plaire, de me plaire. Je n'ai jamais su si Kelley était son nom ou son prénom. Quand j'étais jeune, j'avais une faiblesse. Je ne résistais jamais à l'envie de ramener des souvenirs de mes voyages. Même lorsque je séjournais à Vienne en compagnie de Willy et de Nina, j'achetais tellement de babioles que mes compagnons finissaient par se moquer de moi. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas voyagé, mais ma faiblesse pour les souvenirs n'avait pas totalement disparu. Le soir du 16 mars, j'envoyais Howard et Kelley dans les rues de Germantown. Ce triste décor urbain me semblait être le paysage d'un rêve à moitié oublié. Je pense que Howard n'aurait guère été rassuré dans ce quartier nègre, en dépit de son conditionnement, sans la présence rassurante de Kelley. Je savais ce que je voulais. Je me rappelais son prénom et son aspect physique, mais rien d'autre. Les 4 premiers adolescents que Howard interrogea, soit refusèrent de lui répondre, soit lui lancèrent des insultes. Mais le 5e, un enfant de 10 ans qui ne portait qu'un t-shirt troué en dépit du froid glacial, lui dit « Ouais, mec, c'est Marvin Gaye que tu cherches. Il vient juste de sortir de prison, mec, pour incitation à l'émeute ou je sais pas quelle connerie. Qu'est-ce que tu lui veux à Marvin ?» Howard et Kelley réussirent à localiser son domicile sans avoir à répondre à cette question. « Marvin Gaye ?» demeurait au premier étage d'une maison miteuse, coincée entre 2 immenses immeubles désaffectés. Un petit garçon ouvrit la porte, et Howard et Kelley pénétrèrent dans une salle de séjour où se trouvait un canapé affaissé recouvert d'un tissu rose, un poste de télévision antique dans lequel un animateur vert bonimentait avec enthousiasme, une photographie de Robert Kennedy et quelques images pieuses collées au mur lépreux, et une adolescente couchée sur le ventre qui regarda les visiteurs avec des yeux hagards. Une grosse femme noire sortit de la cuisine, s'essuyant les mains à son tablier à carreaux. « Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Nous aimerions parler à votre fils, madame, » dit Howard.
« À quel sujet ? Vous n'êtes pas de la police ? Marvin n'a rien fait, laissez mon fils tranquille !»«
Non, madame, » dit Howard d'une voix onctueuse. « Rassurez-vous. » « Nous venons simplement proposer du travail à Marvin. »«
Du travail ?» La femme jeta un regard soupçonneux à Kelley, puis se retourna vers Howard.
« Quel genre de travail ?»«
Laisse, maman, ça va. » Marvin Gaye se tenait sur le seuil de la porte du couloir, vêtu en tout et pour tout d'un vieux short et d'un t-shirt trop grand pour lui. Il avait le visage flasque et les yeux vitreux, comme s'il venait tout juste de se réveiller.
« Marvin, tu n'es pas obligé de parler à ces gens-ci. »«
Laisse, maman, ça va. » Il l'enveloppa d'un regard dur jusqu'à ce qu'elle détourne la tête, puis il s'adressa à Howard.
« Qu'est-ce que tu veux, mec ?»«
Est-ce qu'on peut aller discuter dehors ?» demanda Howard.
Marvin haussa les épaules et nous suivit dans la rue en dépit de l'obscurité et du vent glacial. La porte se referma sur les protestations de sa mère. Il regarda fixement Kelley, puis s'approcha de Howard.
Il y avait une vague lueur d'animation dans ses yeux, comme s'il savait ce qui allait lui arriver et accueillait son sort presque avec joie.
« Nous vous offrons une nouvelle vie, » murmura Howard.
« Une nouvelle vie. » Marvin Gale fit mine de parler, mais à 15 kilomètres de là, je poussais. La bouche de l'adolescent de couleur devint flasque et il ne put même pas prononcer un mot. En théorie, j'avais déjà brièvement utilisé ce garçon, lors des dernières minutes de panique qui avaient précédé mon départ de Grumblethorpe, et cela aurait dû me faciliter la tâche. Mais cela n'avait aucune importance. Avant ma maladie, je n'aurais jamais été capable de faire ce que je fis ce soir-là. Travaillant par l'intermédiaire des perceptions de Howard Warden, tout en contrôlant simultanément Kellet, mon médecin, et une demi-douzaine d'autres pions conditionnés se trouvant en autant d'endroits différents. Je fus néanmoins capable de projeter ma volonté avec tant de force que le jeune nègre Okota vacilla, puis fixa le vide devant lui en attendant mes ordres. Ses yeux ne semblaient plus ni drogués ni vaincus. Il n'offrait plus que l'éclat et la transparence du regard d'un malade du cerveau au stade terminal. La somme totale de la vie, des pensées, des souvenirs et des pitoyables ambitions de Marvin Gale avaient disparu à jamais. Je n'avais jamais accompli ce type de conditionnement total en une seule tentative. Et durant une longue minute, le corps que j'avais presque oublié fut saisi par la paralysie pendant que l'infirmière Sewell me massait sur mon lit d'hôpital. Le réceptacle, qui avait été Marvin Gale, attendait patiemment au sein des ténèbres et de la bise. Finalement, je m'exprimais par l'intermédiaire de Kellet, n'ayant nul besoin d'articuler mes ordres, mais souhaitant les entendre par les oreilles de Howard.
« Va t'habiller et donne ça à ta mère. Dis-lui que c'est une avance sur ton premier salaire. »
Kellet tendit au jeune nègre un billet de $100. Marvin disparut dans la maison et en ressortit 3 minutes plus tard. Il ne portait qu'un blue jean, un sweater, des tennis et un blouson de cuir noir. Il n'avait pas de valise. C'était ce que je souhaitais. Nous lui préparerions une garde-robe appropriée quand nous aurions déménagé. Durant mon enfance et mon adolescence, nous avions toujours des domestiques de couleur à la maison. Il me semblait approprié de renouer avec cette tradition à l'occasion de mon retour à Charleston. Et je ne pouvais quitter Philadelphie sans en ramener un souvenir. Le convoi composé de 2 conduites intérieures, des camions de déménagement et de la fourgonnette de location où se trouvait mon lit et mes appareils médicaux mis 3 jours à faire le voyage. Howard nous avait précédés dans la Volvo de la famille, celle que Justin appelait l'Oval Bleu, pour prendre les dernières dispositions, aérer la maison et préparer mon retour. Nous sommes arrivés en pleine nuit. Kellet m'a porté à l'étage sous la surveillance du docteur Hartman, l'infirmière Oldsmith maintenant le goutte-à-goutte en place. Ma chambre étincelait à la lueur des lampes, les dredons étaient retirés, les draps étaient propres et frais, l'acajou du lit, du bureau et de l'armoire sentait la cire parfumée au citron, et mes brosses étaient impeccablement rangées sur ma coiffeuse. Nous avons tous pleuré. Des larmes coulaient sur les joues de Kellet lorsqu'il me posa avec tendresse, presque avec révérence, sur le grand lit. La senteur des palmiers et des mimosas parvenait jusqu'à moi par la fenêtre entrouverte. On apporta et installa l'équipement médical. Comme il était étrange de découvrir la lueur verte d'un oscilloscope dans ma chambre si familière. Tout le monde resta près de moi pendant 1 minute. Le docteur Hartman et sa nouvelle épouse, l'infirmière Oldsmith, finissant d'accomplir leur tâche médicale. Howard et Nancy entourant le petit Justin, comme s'il posait pour une photo de famille. La jeune infirmière Sewell me souriant depuis la fenêtre, et près de la porte Kellet, occupant toute la largeur du seuil, encore plus massive dans sa blouse blanche d'aide-soignant, et à peine visible dans le couloir, Marvin, vêtu d'un habit à queue de pie, une cravate noire autour du cou, des gants blancs passés à ses mains propres. Howard avait eu un petit problème avec Mrs. Hodge. Elle était disposée à louer la maison voisine, mais elle refusait de la vendre. C'était inacceptable. Mais je m'en occuperai le matin venu. Pour l'instant, j'étais chez moi. Chez moi. Entourée de ma famille aimante. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, je pouvais enfin dormir en paix. Il y aurait forcément quelques petits problèmes, dont celui de Mrs. Hodge, mais je m'en occuperai demain. Demain était un autre jour.